Mais attends, c'est pas par là, hein, l'entrée.
Non, pas ce soir. Ce soir, on est en backstage.
Top des tops des vedettes.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode du Backstage. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? On attendait notre rediffusion des comptines du Forgeron. Et oui, mais vous n'êtes pas complètement perdu parce que le Backstage, c'est en fait un tout nouveau programme off des comptines du Forgeron qu'on a décidé de créer pour faire place nette aux interviews qu'on faisait sur le terrain et qu'on n'avait pas toujours forcément le temps de passer en direct. Pour laisser place soit aux invités, soit aux émissions playlist, on avait besoin d'un petit peu plus d'espace et on a décidé de le prendre. Comme indiqué, de fait, le Backstage, ce sera un programme off des comptines du Forgeron avec des contenus un petit peu spéciaux, principalement des interviews, mais aussi parfois des explications sur des sous-genres de métal, un côté un petit peu didactique. Bref, bienvenue et on espère que ce nouveau programme vous plaira. Et pour la première, rien de tel que de parler du SLB Fest. SLB Fest, vous savez qu'on est très attaché dans l'émission Les Comptines du Forgeron à cette organisation qui se fait tous les ans au mois de septembre à Saint-Laurent-Blangy, qui est un festival gratuit, à prix libre, mais principalement gratuit, vous pouvez rentrer gratuitement dedans, qui chaque année fait un énorme effort pour proposer une affiche de qualité variée, inclusive, qui prend même le risque d'avoir une affiche vraiment évolutive qui va passer de quelque chose de très folk, familial, etc., jusque au métal extrême. C'est assez courageux parce qu'il y a pas mal d'affiches qui préféreraient quelque part choisir la facilité et avoir quelque chose de thématique, bien fixé, bien identifiable. Eh bien non, ce festival chaque année fait le choix d'être un petit peu inattendu, de vous donner toujours plein de surprises, mais c'est toujours, malgré tout, avec une approche familiale, inclusive et très ouverte d'esprit. Encore une fois, c'était important pour nous de commencer le Backstage avec une structure comme ça, qu'on soutient vraiment et pour lequel on participe tous les ans en tant que spectateur et parfois en tant que journaliste. Et là, en l'occurrence, vous allez le découvrir sur l'antenne de PFM dans différents créneaux, mais on a passé pas mal de temps au SLB Fest de 2025, et ce, malgré la pluie torrentielle qui a empêché notamment le groupe Fugue de jouer. Mais voilà, aujourd'hui on commence avec deux interviews prises au dernier SLB Fest 2025 avec dans un premier temps Fugue et sa musique post-punk, vous allez voir dans l'esprit de Fontaines DC, Joy Division, etc. qui devrait bien vous plaire, on commence plutôt doucement pour finir après avec le métal moderne et assez extrême de Giant Fragments. On commence tout de suite donc avec l'interview de Fugue.
Salut Fugue.
Salut.
Alors, on est un peu désolé que de vous accueillir dans ces conditions-là, mais malgré tout, comment ça va?
Ça va. Vous entendez l'éclair? Ça s'est laissé.
Thunderstruck.
Non, ça va. C'est la faute de personne, c'est
la pluie.
C'est la pluie. Au moins, ça remplit une nappe phréatique, on est content. Ça sert à quelque chose.
Faut rester positif effectivement, donc pour les auditeurs qui ne sont pas là le jour du SLB Fest, ils sont en train de louper les conditions bibliques du festival. Malgré tout, donc aujourd'hui vous deviez jouer et malgré tout je m'étais dit que c'était quand même important qu'on vous interviewe pour faire découvrir votre musique à ceux qui ne la connaissent pas et qui ont tort. Juste pour commencer, comment vous vous êtes rassemblés autour de ce projet? Comment est né Fugue et pourquoi vous vous êtes mis d'accord sur ce nom-là?
Alors en gros, quand on avait 12 ans, on faisait du skate avec Romy, qui est guitariste aussi du coup. Et on s'est dit, vas-y, tu fais de la guitare, tu fais du skate, viens on fait un truc. Donc on a commencé comme ça. Et Antonin aussi qui vivait dans un village avec moi, à Feigneux, en Picardie. On a commencé à jouer ensemble. Et du coup, quand on a rencontré Romain, on a joué tous les trois ensemble. Et après, on a fait plusieurs projets avec différents bassistes, différents chanteurs, chanteuses. Et là, tel que c'est comme ça maintenant, ça fait... 2021, ouais, qu'on a commencé avec le projet Fugue. Et Fugue, en vrai, ça vient juste du fait que. Le nom du groupe, pardon. Ça vient juste du fait que, du coup, vu qu'on a grandi un peu dans un petit village où tout le monde se connaissait, on était vu un peu comme le groupe de petits jeunes où quand on jouait, c'était genre, ah, c'est cool, il y a les petits jeunes qui jouent. Du coup, on en avait un peu marre d'être le groupe de petits jeunes du coin et de pas être pris au sérieux. Et on s'est dit, genre, quand tu es ado et que t'en as un peu marre de pas être pris au sérieux, tu fugues. Et voilà, ça vient qu'être là.
Mais de fait, maintenant, vous êtes plus un groupe de petits jeunes, vous êtes un groupe de jeunes vieux.
Ouais, et on adore Jean-Sébastien Mac. Voilà.
Votre dernier EP en date, il s'appelle Yell, et rien que ça, j'avais envie de vous demander un petit peu sur le sens de ça. C'est parce que donc pour les non-anglophones, c'est un cri, mais donc c'est un cri pourquoi, après quoi?
Comme on peut le voir depuis quelques années, c'est un peu le bordel partout, et aussi bien culturellement que socialement, que économiquement, il y a tout qui barre un peu en couille. Et bah quand tu grandis et que tu commences à te former un peu en tant que jeune adulte, et que tu vois tout ce délire qui se passe autour de toi et que tu sais plus prendre de repères ou quoi, t'as juste envie de pousser une petite gueulante et de lâcher un peu le stress, et voilà, c'est ça en gros, Yell c'est ça.
Il y a un morceau qui s'appelle The Door, et c'est pareil, c'est la porte vers quoi, pourquoi?
C'est la porte vers la maturité quoi, c'est... putain. D'un coup t'as l'air con quand tu le dis en français. En gros ouais, c'est ça, c'est juste ferme la porte sur tout ce qui s'est passé avant, et là ça y est, tu deviens adulte, tu prends tes clics, tes claques, et tu deviens grand quoi. Voilà, en gros c'est ça.
Chacun individuellement, pour aussi vous faire un peu tous parler, c'est quoi vos morceaux préférés de l'EP?
Moi c'est Thunderstruck.
Non, pour répondre sérieusement, moi je dirais Je passe de Beast. Pourquoi? Pour cette progression qu'il propose, cette grosse marche vraiment lourde, et les thématiques abordées qui, de la violence familiale, qui sont malheureusement assez concrètes dans le monde qui nous entoure. Et voilà.
Je pense que c'est The Door ou Lost. C'est les morceaux que j'adore jouer et que j'ai bien aimé quand on les a composés. Donc c'est ceux qui m'ont le plus marqué en tout cas dans la confection de l'album, de l'EP pardon. Et Les yeux d'Emily de Joe Dassin aussi.
Pour moi, ce sera Whisper et The Beast. Pareil que Robin sur The Beast, c'est vraiment la thématique qui m'importe beaucoup. Et pour Whisper, moi, c'est une de mes préférées à jouer sur scène. C'est là où les gens, en général, on les voit bouger, etc. Donc, c'est vraiment les deux morceaux qui ressortent pour moi de l'EP.
Ah, sinon, j'aime bien Whisper et Lost.
je trouve la pochette de Ye. Elle choque dans le bon sens. Qui est-ce qui l'a réalisé?
C'est une amie à nous qui s'appelle Emma Devigne, qui est photographe, graphiste et qui a fait ses études au Gobelin. On avait envie d'avoir un visage sur l'EP et pas forcément des nôtres, quelqu'un qui n'est pas relié au groupe. Et elle a utilisé plusieurs procédés. Donc c'est une photo argentique qu'elle a grattée et qui ensuite a été... qui a été faite au cyanotype, donc d'où la teinte bleue. La teinte bleue qu'on voit sur la cover, c'est une teinte qui est naturelle, on n'a pas retouché après en... Ouais, c'est la chimie qui a du coup imprimé la photo en bleu.
Le visage qui crie, on n'arrive pas à lui donner un genre, on n'arrive à rien lui donner, parce que... Enfin, je peux même dire, même de loin au début, j'ai fait c'est un alien, parce que c'est... Non, mais ou un truc, c'est fantasmagorique, c'est... Un cri universel, mais enfin...
Du coup, c'était vraiment le but, c'était qu'on n'identifie pas un genre ou quoi sur la photo, et que tout le monde puisse se reconnaître un petit peu dans ce cri-là. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, au final, il y a quand même un sens, enfin, il y a quand même un lien entre la personne qui pose sur la pochette et le groupe, parce que c'est Zoé Jonas qui a réalisé le clip de The Beast, du coup. Voilà. Merci Zoé.
L'interview de Fugue continue juste après une petite page musicale. Restez avec nous.
Yeah.
Est-ce que, comme c'est une image assez forte, vous la déclinez en t-shirt ou pas du tout? Parce que, enfin, clairement, elle tabasse, quoi.
On la décline en t-shirt. Force est d'avouer que ça rend mieux sur le CD que sur le t-shirt, mais sur le t-shirt, c'est quand même très joli. On en a ressorti là, justement, en noir avec la photo imprimée en bleu. Et ça rend un truc assez joli qui met mal à l'aise aussi, un peu comme sur le CD. Donc on est vraiment content de cette cover.
Si vous voulez porter un t-shirt qui rend mal à l'aise, bah achetez-le, il coûte 15 euros. Voilà.
Et c'est pas cher, et c'est pas cher par rapport à plein de groupes. L'EP il va bientôt avoir un an, donc la question logique avec ça, c'est est-ce qu'il y a déjà la suite qui est en cours? Est-ce qu'il y a déjà de la compo qui charbonne ou pas? Ou est-ce qu'on continue de travailler cet EP-là sur scène? Comment vous le sentez?
Là pour le coup on est en train de composer un peu des morceaux pour un futur album. Il y en a qui devraient sortir, on espère, avant 2026, mais on se cueille pas les ailes tout de suite. Voilà. En tout cas, on joue déjà des nouveaux morceaux sur scène et c'est, je pense, dans la continuité de ce qu'on a fait, un peu plus rentre-dedans, un peu plus dry, un peu plus, ouais, moins shoegaze, quoi.
Et on essaie aussi, au niveau de la voix et au niveau des mélodies, de se rapprocher, parce qu'on écoute aussi beaucoup de pop. On essaie de se rapprocher aussi au niveau des mélodies vocales, de choses qu'on peut chanter, ce qu'il y avait déjà un peu sur Whisper, mais des choses qu'on peut chanter et entonner un peu comme des hymnes, ce qu'on essaie de faire.
Est-ce qu'à terme, on pourrait avoir des petits claviers éthériques dans la suite, des petits trucs très années 80 qui font pouette-pouette?
La thématique des claviers, elle revient souvent chez nous parce que on kiffe tout ça en dehors de Fugue et on aimerait bien kiffer ça aussi dans Fugue. Pour le moment, on essaie aussi de garder une légèreté technique pour ce qu'on propose en live, pour rester très souple. Mais là, dans les compos qui arrivent, oui, ça pointe le bout de son nez assez régulièrement.
Si vous aviez une affiche de rêve avec qui partager, donc y a vous évidemment, Fugue, et après on va dire trois groupes avec qui vous rêveriez de jouer, quoi.
Fontaines, je pense qu'on est tous d'accord sur ça.
Moi je pense que ce serait Dive.
Moi j'hésite entre New Dad et Dryla.
Johnny Hallyday.
Mais pour continuer justement dans ce genre de petites questions, j'allais finir par vous proposer une espèce de petite carte blanche à chacun avec des questions un peu à la chaîne musicale sur vos goûts, etc. Pour commencer, qu'est-ce qu'on écoute quand ça va mal?
Fugue, du coup.
Ouais, enfin, voilà, c'est tout.
On est pas très moi j'écoute Top of the Bill de Gurriez quand je vais pas bien, parce que c'est une chanson qui rentre dedans à la fin et c'est chouette. Je recommande ça à tout le monde. Oui, bah oui, après écoutez ce que vous voulez, hein.
Moi en ce moment ce serait Concrete of Water de Jockstrap. Voilà, que j'aime beaucoup.
Moi c'est le groupe High School plutôt.
Quel est le groupe que vous êtes le seul à connaître et c'est dommage?
Fugue, ouais, c'est bien ça. Non, je sais pas, bonne question. Just Mustard, mais je pense que tout, il y a du monde qui connaît, quoi. On n'est pas les seuls. C'est peut-être pas assez connu pour ce qu'ils font, mais Just Mustard, c'est hyper bien.
Dans cette esthétique-là, je dirais Chest, mais dans une autre esthétique, je dirais 5KHD.
Je dirais Van Houten, un groupe d'Irlandais, très très fort.
Super Irlandais.
Non. C'est vrai?
Mais si.
Ils
sont
Pays-Bas.
Van Houten, mec.
Van Houten des Pays-Bas, alors.
Et moi, du coup, toujours High School.
La pochette, elle a quand même un côté un peu horrifique, un peu old school, un peu giallo, des choses comme ça. Est-ce que vous aimez les films d'horreur? Et si oui, si vous en avez... quel est ton film d'horreur préféré?
Moi, je dirais... J'hésite entre deux. Entre Midsommar et The Visit. Ouais. The Visit, je l'ai vu il n'y a pas longtemps avec ma copine. J'ai adoré, c'est super. Mais je pense que c'est Midsommar quand même. Parce que l'esthétique est trop belle... l'histoire est trop bien écrite, c'est vraiment chouette.
Moi je suis allé voir le dernier Conjuring et je vous le recommande pas.
Et si, en film d'horreur je dirais aussi Bienvenue chez les Ch'tis.
J'ai la musique avec moi, non? Yes. Non, je suis pas sûr que ce soit un film d'horreur, mais il y a un film que j'ai vu il y a pas longtemps qui m'a un peu traumatisé, c'est The Substance. Qui est bien dégueulasse, quoi. Et qui met bien mal à l'aise, voilà. Un peu dans la thématique de la pochette, je pense. Ça marche bien.
Dans la thématique, je penserais moi plus à Titan. Un peu provoque.
Pour conclure, par rapport à l'instrument que vous jouez, y compris la voix, c'est quoi votre instrumentiste préféré dans l'instrument que vous faites? Genre batteur préféré, bassiste préféré, etc.
Moi, je pense que pour le coup, c'est Grian. de Grian Chatten de Fontaines. Voilà.
Moi, complètement en dehors de l'esthétique, j'adore le bassiste Pino Palladino. Mais voilà, on n'est pas trop dans la DA, mais je trouve que c'est très bien ce qu'il fait.
Moi, je vais en dire trois parce que j'arrive pas à faire le choix. Je dirais Johnny Marr des Smiths, Thurston Moore de Sonic Youth et Andrew Bailey, le guitariste de Dive.
Et moi, ça sera le batteur de Lysistrata. J'adore sa manière de jouer, etc.
Merci encore à Fugue pour nous avoir accordé un petit peu de temps pour répondre à nos questions et on enchaîne tout de suite avec quelque chose de beaucoup plus brutal avec cette fois-ci Giant Fragments avec l'interview qui a principalement été réalisée par Julien.
Donc question classique, à votre actif il y a un EP, Reborn, sorti en 2023, un premier album, un an après, octobre 2024, Archéologie, qui était un album conceptuel, il me semble, avec notamment la pochette qui donnait pas mal d'indices sur le concept de l'album. Bah, est-ce que vous pouvez le décrire?
C'est un album de métal moderne avec quand même des influx assez prog, hybride, metalcore. C'est un peu un grand mélange. Et en fait, dans presque tous les morceaux, on a des influences de musique du monde avec des instruments traditionnels qui arrivent et qui colorent un peu les morceaux pour créer un album un peu de voyage, quoi. Voilà.
Et de fait, pourquoi ce titre-là a été choisi justement et quel est le concept qui se cache derrière pour l'album ?
Alors le titre de l'album, c'était il y a tellement longtemps, mais c'était une métaphore de la fouille et du fait de dévoiler certaines divinités. Donc divinités du Japon, d'Afrique, d'Amérique du Sud, de Mongolie aussi, qu'est-ce que j'oublie ? Et de Scandinavie. Ouais. On voulait absolument doser parce que le risque c'était de tomber un peu dans le folk.
Maxime déteste le folk.
Je détestais ça. C'était pas du tout l'idée, donc en fait, on s'est débrouillé pour... Le but, c'était vraiment que ce soit fait avec parcimonie, à la limite que ça arrive même une seule fois dans le morceau, et que ce soit pas tout le morceau forcément qui soit coloré, pour que ce soit plutôt des clins d'œil et des couleurs surprenantes, quoi. Mais ouais, on a vraiment essayé de doser tout doucement, quoi.
Il y a pas mal de featuring sur votre scud. Je pense notamment à Lola Dincourteuse maintenant, il faut les nommer comme ça. Mais j'ai envie de vous parler d'un album que j'ai chroniqué et que j'ai passé lors de l'émission de radio. Je vais vous parler du Scam. Et en fait, comment vous est venue l'idée de cette collaboration, d'autant plus que le groupe évolue dans un black metal. Alors oui, à tendance orientale, donc je vois l'aspect culture, folklorique un peu et culturel que vous abordez dans le concept. Mais voilà, comment vous êtes rapproché du Scam, qui est un groupe assez récent finalement.
Alors du coup là c'est pour moi, en fait il se trouve que Jessie qui est la chanteuse de Ousquam, c'est ma prof de chant en fait. Et donc du coup je savais que le métal qu'on fait, métal moderne, c'est pas trop son genre. Mais après c'est une artiste qui est extrêmement éclectique, elle est aussi bien, elle fait aussi bien du chant lyrique que du chant métal, que du chant, enfin dans des musiques actuelles, de la pop, etc. Elle écoute vraiment beaucoup 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 de choses. Quand elle était petite, elle racontait ça sur une interview, sur une chaîne Twitch, elle achetait, enfin elle c'était pas genre des papas, est-ce que je peux acheter des bonbons, c'était genre, il y a ce CD de titres là, je l'ai pas encore, tu vois. Et donc elle achetait vraiment tout, elle écoutait vraiment beaucoup de trucs, et je pense que ça l'a encore marqué aujourd'hui dans cette identité. Et c'est vrai que sur ce titre, je pense qu'on s'est dit, il y a moyen qu'elle apporte quelque chose de vraiment assez sombre, assez fin. Et c'est vrai que ça parle d'une divinité donc africaine, qui peut être un peu à double tranchant, on va dire, parce que c'est la pluie, donc ça peut être hyper destructeur, parce que l'orage, etc. Et en même temps, sans la pluie, il n'y a pas de vie, etc. Donc il y avait ce truc de c'est quand même quelqu'un à qui on parle poliment, parce que c'est un dieu qui peut être extrêmement dangereux. Et du coup, on trouvait que dans sa voix, ça s'y prêtait bien, quoi. Il y avait un truc qui pourrait vraiment coller avec sa voix, et je trouve que c'était finalement assez réussi, ouais.
C'était même un feat avec elle avant d'être un feat avant son groupe, parce que quand on lui a demandé, le groupe était vraiment embryonnaire. Oui. Et en fait, quand on a sorti l'album, son groupe est né, et du coup, on a signé Ousquam sur l'album, quoi. Ouais.
On parlait notamment des goûts. Très varié de Jessie du Scam. Et vous, t'as parlé de CD de titres. Alors, dans votre baladeur, qu'est-ce qu'il y a dans votre smartphone actuellement ?
Actuellement, il y a le dernier Dance Gavin Dance qui est sorti et qui est vraiment super. Mais il y a vraiment plein d'autres trucs. Qu'est-ce qu'on écoutait ? Enfin, là, surtout sur la route, il y avait du Within the Runes. Il y avait. Il y avait tellement de trucs, et en fait ça peut passer de trucs très... je sais pas, il y avait du rock japonais, il y avait... c'est quoi déjà, c'est... ah merde, j'ai perdu le... Wanima ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin des trucs qui peuvent être assez chill, et en même temps en temps il y a vraiment du gros truc où ça tartine dans tous les sens.
Il y a le nouvel album de Lorna Shore là, ouais. Donc en ce moment on écoute pas mal ça.
Moi j'ai pas trop aimé. Moi ça m'a pas trop accroché, je pense que je préfère quand c'est sombre en fait. Et là le fait que ce soit un peu entre les deux, c'est ce qu'on disait, ça m'accroche moins mais...
Il y a l'album de Lastel, qui est un album de... Comment on pourrait décrire ça ? C'est un peu du post-hardcore, très mélancolique et tout. Ça c'est vraiment pas mal du tout. En ce moment ouais, j'écoute ça.
Et moi, du coup, mes influences sont plus sur ce qui va venir, parce que j'ai pas participé à la création de ce qui s'est passé là, mais chez moi, il y a du Deathcore, comme Diatrophy, par exemple, ancien groupe de Stray From The Past. Il y a du... I Prevail, mais il y a aussi du rock, du Kokomo, du Royal Blood, ce genre de choses. Disons que j'ai une culture un peu scindée entre le rock et le métal, quoi.
Mathilde, tu alternes chant clair, mélodique et chant grôlé. Comme on le disait, tu viens de la scène rock. Qu'est-ce que tu as dû travailler le plus? Parce que souvent dans la scène métal, on dit que les gens qui grôlent, c'est le chant mélodique le plus compliqué. Est-ce que toi, tu avais ça en toi, le groll, ou c'est quelque chose que tu as dû vraiment t'y mettre et vraiment travailler? Parce que c'est une technique, c'est pas que crier dans un micro.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, si tu cries, tu te niques la voix et tu vas pas très loin, en fait. Enfin, notre ancien batteur avait tenté de faire ça. Et pour, il voulait enregistrer un morceau, il s'était dit, vas-y, je vais faire le scream et tout. Résultat, il s'est niqué la voix et il a perdu genre 2 tons dans les aigus, en fait. Donc, heureusement, il est pas chanteur parce que sa voix est définitivement abîmée. Mais ouais, du coup, ouais. Et du coup, non, moi, je faisais déjà des petits cris un peu rock dans mon ancien groupe. Et en fait, déjà dans mon ancien groupe, on était en train de partir. Il y avait des morceaux qui étaient un peu métal et je m'y essayais, mais c'était pas encore ce que je voulais. Et en fait, du coup, j'ai pris des cours avec Jessie, avec la base de chant un peu rock saturé que j'avais. C'est ça qui m'a permis de débloquer mon scream assez facilement. Et effectivement, je pense que ce qui est le plus dur, c'est pas soit juste le chant rock, soit juste le chant clair, soit le chant saturé. Pour moi, c'est vraiment les deux, en fait, parce que une fois que la voix, elle est un peu partie dans le fry, elle est partie sur un mode j'éraille, en fait. Et du coup, quand on va revenir à un beau chant clair où il y a des aigus et tout, des fois, la voix, elle est pas coopérative du tout et c'est un peu chiant, ouais. Mais faut faire les deux, c'est plutôt l'alliance des deux, ouais.
Vous avez fait le off du Hellfest en 2024. On connaît tous le Hellfest, mais le off, on ne sait pas forcément ce que c'est, comment ça marche, comment on est programmé, si après on a accès au Hellfest ou pas. Donc j'aimerais bien que vous me racontiez un peu votre expérience du off du Hellfest, parce que moi, c'est quelque chose que je ne connais pas.
Eh ben, ça se passe donc avant le Hellfest, je crois 3 jours avant, un truc comme ça. Et c'est sur le centre commercial, le Leclerc de Clisson, en fait. Donc du coup, le parking est gigantesque et il y a une très grande zone qui est dédiée avec une scène vraiment de festival, même encore plus grosse que ce qu'il y a aujourd'hui. C'est vraiment hyper, hyper grand. Non, il y en a deux d'ailleurs, parce que c'est vachement millimétré là-bas. L'organisation, c'est vraiment un groupe a fini, l'autre commence, etc. Enfin, une demi-heure par groupe. Et c'était hyper rodé, organisation au top. Et par contre, il faisait une chaleur. J'ai l'impression que c'est de plus en plus traditionnel, en fait, que le Hellfest soit une sorte de désert, en fait, d'avant-goût de l'enfer, en fait. Hein, ça porte bien son nom, parce qu'on brûle littéralement toute la journée quand on est là-bas. Mais voilà. Mais c'est vachement sympa, parce que du coup, effectivement, il y a déjà un peu cette ambiance de festival qui est là, qu'on sent, et il y a vachement de monde en plus qui passe. Mais donc du coup, je pense qu'on peut toucher quand même un large public, parce que entre les gens qui restent et les gens qui ne font que passer, mais qui sont quand même attentifs à ce qui se passe, et ouais, c'était sympa. Je sais pas si
Même le son va jusque dans le Leclerc, parce qu'il est retransmis dans le donc en fait ça va, c'est vrai que le son va très très loin. Et nous il y avait du monde, on a rencontré plein de gens et on a passé un super moment, quoi.
Il me semble que votre musique, elle est uniquement disponible en matérialisé, dématérialisé, pardon. Enfin, j'ai pas trouvé de CD ou de vinyle. Est-ce que ça va sortir? Est-ce que c'est prévu ou pas du tout?
En fait, on a nos CD, ils sont en vente au merch. Et en fait, on vend notre merch à chaque concert. Donc t-shirt et album. À chaque concert, quand on rencontre le public et qu'on a vraiment les gens en face de nous, là, c'est là qu'on...
En fait, le truc, c'est que le merch physique, le faire à distance, ça rajoute vachement de frais. Et du coup, vu qu'on est un petit groupe, en fait, ce serait une logistique hyper compliquée, on vendrait quasiment pas. Et du coup, déjà qu'on peut pas faire des marges, le but, c'est aussi que le groupe vive. Et malheureusement, des dates qui sont un peu rentables, entre guillemets, il y en a pas beaucoup. Du coup, souvent, on y est un peu de notre poche, etc. Donc, si on devait encore réduire les marges parce qu'il fallait y avoir des frais d'envoi et tout, en fait, on perdrait trop d'argent, en fait. Là, déjà, à l'heure actuelle, la balance est pas positive. Du coup, le merch, c'est un peu ce qui nous rend flou. Et je pense que c'est pareil pour beaucoup d'artistes, d'ailleurs. Si vous voulez soutenir les artistes, achetez-leur du merch. On est avant tout des vendeurs de t-shirts, messieurs, dames. Donc, n'hésitez pas, hein, surtout. Voilà, mais ouais, c'est un peu compliqué pour les petits artistes. Donc, il faut nous voir en concert, de toute façon. Voilà.
Puis je voulais juste ajouter qu'il faut pas oublier que pour retrouver des CD dans la grande distribution et dans le commerce de manière générale, il faut forcément un contrat de distribution physique avec un distributeur. Et c'est pas quelque chose qui est facile à avoir pour des petits groupes comme nous, et surtout pas dans le métal en fait. Donc c'est un peu normal d'avoir des difficultés de trouver les albums en physique. Le mieux pour soutenir les groupes, c'est encore de venir au concert, d'acheter le merch sur place. C'est vraiment ce qui va faire la différence en fait.
L'interview de Giant Fragments sur Radio PFM, ça continue après un morceau de musique. Restez avec nous.
Vivez pas de votre musique. Est-ce que c'est un objectif à long terme? Parce que je pense que vous devez avoir tous des métiers. Je pense notamment à madame qui bénéficie du statut d'intermittent. Est-ce que vous, c'est un objectif de carrière ou pas du tout?
Bah, ça va dépendre des gens. Moi personnellement, je suis intermittent, je suis batteur pro et ingénieur du son, et donc j'en fais mon métier, mais pas spécifiquement ce groupe. Pour accumuler un statut, de toute façon, il faut travailler un petit peu partout, hein, donc voilà. Après, je pense que l'objectif, je vais peut-être parler en votre nom, vous me direz, mais je pense que l'objectif, c'est avant tout de se faire connaître et d'exister dans la sphère culturelle, en fait. Au-delà de gagner sa vie. Gagner sa vie avec le groupe, c'est une idylle qui peut peut-être exister, mais on n'en est pas du tout à cette étape-là de raisonnement, en fait. On en est vraiment à un stade de promouvoir notre musique et exister au sein de la culture française et internationale. Ce serait déjà très bien.
Surtout que le métal est vraiment une niche, du coup c'est quand même assez compliqué. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de groupes de métal qui vivent de leur musique en fait en France. Effectivement, même les groupes connus, il y en a plein. En plus, c'est devenu un petit peu un mythe en fait. Donc après, je pense qu'il y en a qui arrivent quand même, mais c'est plus là, on est plus au stade du rêve actuellement qu'au stade de la réalité, hein, vraiment.
Pour donner à titre d'exemple, le groupe Périphérique, quand même un groupe vraiment connu internationalement. En fait, il y a encore pas si longtemps, je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais il faisait des tournées internationales et il sortait à zéro. Voilà, donc en fait, c'était leur vacances quoi. C'était vraiment le but, c'était que c'était leur kiff quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est, ah oui, bah, donc, après, bon, peut-être que ça a changé, mais bon, pour en vivre, faut vraiment y aller franco quoi. Donc il y a d'autres étapes avant.
Vous avez prononcé le mot rêve. Sur un ton un peu plus léger, quels sont vos rêves pour le groupe, une affiche de rêve, une première partie de rêve, des featuring, un nouvel album, enfin, de quoi rêvez-vous avec Giant Fragment?
Wow, des rêves, il y en a plein. Ouais, je sais pas. Si moi j'ai un rêve, ce serait de jouer à l'Olympia. Ça, c'est un putain de rêve. Et puis ouais, je sais pas, ouvrir pour tous les groupes qu'on adore, quoi. Donc c'est toujours les mêmes groupes qui reviennent, mais Ginger, Polaris, des groupes de ouf quoi. Ça serait chambé de jouer avec eux. Et puis ouais, faire des belles salles et faire des blindés et des fests toujours plus grands, toujours plus accueillants. C'est parce qu'il faut quand même passer des bons moments. Et ouais, c'est ça, des festivals, des belles dates, tourner aussi. Tourner, voyager. Pour le moment, on a beaucoup voyagé en France et en Belgique. Ce serait super de voir d'autres pays, encore d'autres paysages. Voilà. Bah voilà, ouais, c'est ça, ouais. Donc pourquoi pas.
En fait, quand tu me poses cette question, c'est tellement abstrait que moi j'ai du mal à me projeter. Mais je pense que moi ce serait que. Enfin, tu vois, c'est plus dans la réalité en fait. Mais c'est un rêver la réalité, tu vois. Je vais paraphraser téléphone. Mais plus, tu vois, qu'on réussisse à continuer sur notre lancée. Parce que je trouve qu'on a eu des opportunités qui étaient super. Enfin, là, il n'y a pas longtemps, on a joué Saint-Laurent-Blangy, c'est là. À Crèvecœur-le-Grand, c'était le Barben Rock. Et c'était super. Enfin, festival open air. Il faisait hyper beau, il y avait plein de monde et c'était vraiment trop cool, l'affiche était top et franchement c'est là aussi où je me suis dit putain en fait j'aime bien les open air, du coup ouais si on peut avoir des open air dans le futur ce serait trop bien.
Ouais, vraiment un maximum de dates en extérieur avec plein de gens qui font la bagarre, vraiment ça c'est, et faire ça un maximum, voilà.
Et concernant l'avenir, vu que l'album a bientôt un an, vous avez commencé à réfléchir à un nouvel EP, un nouvel album
Oui, on écrit beaucoup. Donc pour le moment, on a on a beaucoup de munitions, on va dire. On est en train de faire le tri, de réfléchir à ce qu'on veut faire. Mais on en a vraiment beaucoup sous le pied. Donc notre problématique dans notre groupe, c'est pas vraiment de produire, c'est plutôt de choisir, de mettre en place, de...
d'avoir quelque chose de cohérent, parce qu'en fait les compositions qu'on a pour l'instant ça part un peu dans tous les sens et du coup on se dit bah ouais mais non mais là ok ils sont top mais on peut pas mettre ce morceau là avec ce morceau là, en fait le public se dirait mais qu'est-ce qu'ils font, enfin c'est pas du tout ça va pas ensemble quoi, ou peut-être qu'il y en aurait qui adoreraient un morceau et se dira ah, putain l'autre il est vraiment nul parce que c'est pas du tout leur style, enfin du coup on essaye un peu, c'est aussi une réflexion finalement. Archéologie, il y avait un côté où expérimental et le côté un peu folk entre guillemets, même si c'est un gros mot pour toi. Ça a un peu masqué le truc de c'est quoi en fait notre identité quoi, parce que c'était ça un peu la contrainte, mais finalement quand on enlève cette contrainte là en fait c'est quoi notre son, et ça je pense que c'est un peu notre réflexion du moment. En plus le fait d'avoir un batteur tout neuf qui sort de l'emballage, c'est vraiment alors qu'est-ce qu'on va faire avec voilà, ouais c'est le plastique, voilà. Et du coup effectivement qu'est-ce qu'on va faire avec lui, quelle est la musique qu'on va pouvoir composer, c'était quoi le son avant en fait quand on enlève le côté folk, et ça va être quoi le son après avec un nouvel élément humain quoi. Ouais.
Là on cherche vraiment le son qu'on va avoir en fait, en plus on a commencé à répéter, bon là ça commence à être un peu sérieux parce qu'on va quand même jouer aujourd'hui, mais voilà ça permet d'avoir une nouvelle idée de comment on va sonner, et ce son je pense, alors ça c'est mon avis, on est encore en discussion, mais je pense que ce son va donner une direction de manière générale aux compositions et où est-ce qu'on va aller en fait.
Donc c'est un peu un tournant en fait pour vous, ce nouveau son, nouveau batteur, vous step 2 quoi, vous vers autre chose.
fait, pour, je pense pour répondre à cette question, moi je pense à une interview de M qui disait que Mathieu Chédid, il dit que quand tu sors un premier album, c'est un point dans l'univers. Et quand tu sors un deuxième album, tu traces une ligne, tu traces une direction. Et là, on en est là. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que là, on va mettre un deuxième point qui va donner une direction, qui va donner une direction artistique, une direction de son. Donc ça va vraiment commencer à définir qui on est. C'est pour ça qu'on prend le temps de bien choisir ce qu'on veut faire.
Surtout que, en plus, les choses qu'on a sorties, elles sont pas sorties dans le bon ordre, en quelque sorte. Parce qu'en fait, ce projet, il existe depuis donc 2022. Mais avant, Jérémy, Maxime ont eu un autre, mais Logan aussi d'ailleurs, ont eu un autre projet ensemble. Et en fait, du coup, il y avait déjà cette idée d'album. Et il se trouve que, on a repris parce que moi et Julien, on était emballés par ce truc-là. Mais du coup, c'est des trucs qui sont assez vieux. Et en fait, il fallait mettre le temps, composer un album, c'est long. Moi et Julien, on venait juste d'arriver, donc on se prenait un album dans la gueule, il fallait tout faire et c'était hyper, hyper long. Donc en fait, ça fait qu'on s'est dit, l'album va pas sortir tout de suite parce que c'est quand même long de sortir un album, même s'il y a eu beaucoup de travail de fait. Il fallait quand même rajouter toutes les lignes de chant et tout, c'était un peu... Donc voilà, il y a eu l'EP Reborn qui est sorti avant finalement, mais en fait c'était des titres qui étaient composés après... Enfin c'était un peu Il y avait un peu de tout, parce qu'il y a eu un titre que toi t'avais composé pendant le confinement, je crois, pour un projet solo pendant que l'autre titre n'avançait pas. Il y avait des trucs... Enfin, Reborn, c'est un titre qui existe depuis longtemps aussi, qui a été repris, où moi j'ai complètement refait la ligne de chant. Et les deux autres... Attends, c'était quoi? Visions, par contre, et I'll Build a Bridge, ça c'est des nouveaux morceaux. Donc en fait c'est un peu de tout quoi, c'est un peu un patchwork, et là c'est un peu plus dur parce qu'effectivement sur les prochaines chansons qu'on va sortir, il n'y a plus de trucs qui étaient définis avant, c'est vraiment que de la page blanche, de la nouveauté en fait, qui n'ont pas été réfléchis depuis longtemps, ah ouais enfin à l'époque il était comme ça, non c'est fini tout ça, c'est vraiment neuf, donc c'est, ouais, faut se laisser le temps de bien penser le truc quoi. Yeah.
Vous venez d'entendre l'interview de Giant Fragments qu'on a eu également l'occasion de rencontrer au SLB Fest. Et c'est avec cette interview qu'on va déjà clore ce premier épisode du backstage des Comptines du Forgeron. Et soyez bien attentifs au niveau de l'antenne de Radio PFM parce que les autres interviews du SLB Fest vont arriver. On a rencontré quasiment tout le monde ce soir-là, contre vents et marées, et avec beaucoup de musique quand même malgré tout et beaucoup de passion. J'en profite quand même pour saluer toute l'équipe qui s'est vraiment donné du mal la veille. Le jour même et le lendemain bien entendu pour toute la gestion du lieu, le rangement, etc. Et en plus dans tout le processus ils se sont vraiment pris la pluie dans la figure tout au long du processus, donc vraiment on leur envoie tout notre soutien, tout notre amour par rapport à ce festival qui est vraiment génial, et on espère vraiment qu'il fera meilleur l'année prochaine et qu'on les reverra de fait en super méga forme. Et alors pour terminer cette émission, on va vous passer un petit morceau du seul groupe de la soirée qu'on n'a pas interviewé, et pour cause, il s'agit de Sumus Diabolus Incarnatus, qu'on a déjà rencontré un certain nombre de fois dans cette émission et qui surtout va bientôt revenir parce qu'ils ont de l'actualité qui est en train de se construire. Ils ont un deuxième album en chantier dont ils viendront nous parler assez prochainement, donc c'est pour ça que le soir même du festival on s'était dit qu'on allait temporiser. Malgré tout, on leur fait quand même une petite accolade pour terminer et pour finir de saluer encore une fois l'équipe du SLB Fest. Sumus Diabolus Incarnatus, c'est le groupe qui a clos l'édition 2025 du SLB Fest. On va se quitter avec un morceau de leur premier album en attendant le prédécesseur. J'espère que ce format vous aura plu et on se retrouve très bientôt.